Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia.
Et dans les grands débats du matin, 8h53 Sud Radio, avec Alexis Poulain qui va nous rejoindre et vous appelle au 0826-300-300. Beaucoup de réactions sur le bac qui a commencé, vous le savez, là, depuis à peine une heure pour beaucoup de lycéens. Et c'est aussi la question du jour sur Twitter.
Qu'est-ce qu'on en dit alors sur les réseaux sociaux?
Dans l'ensemble, voilà, c'est assez partagé hein, pour nos auditeurs. Ça reste une épreuve banale, le bac, et pour d'autres, à 20%, un sésame pour les études. Ça réagit aussi du côté du 0826-300-300. Avec Hervé d'Antony qui a sa petite idée sur la question. Bonjour Hervé.
Bonjour Hervé.
Bonjour.
Il me semble que Hervé, vous avez déjà eu en ligne et que vous êtes enseignant. Hein. Vous étiez enseignant, professeur.
Écoutez, j'ai beaucoup d'anecdotes que vous avez demandé. Vous avez sollicité les auditeurs pour avoir une anecdote.
Allez, une anecdote.
Je peux vous en donner, alors là, mais de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire du côté des enseignants, des correcteurs, la manière dont, depuis de longues années, mais ça a commencé il y a très longtemps, on fait tout, si vous voulez, pour faire réussir. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, il y avait une majeure en histoire, une mineure en géographie, ou le contraire. Ouais. Et il y a une année où ils s'étaient rendu compte que dans la majeure en histoire, tout le monde avait raté. Ouais. Et donc, ils ont voulu faire changer, ils ont changé les notes, c'est-à-dire que les notes qui étaient bien meilleures en géographie, parce qu'il y avait beaucoup moins de connaissances, à donner c'est la note qu'on a mis devant. Et d'autre part, moi je peux vous dire que j'ai récupéré donc à la Sorbonne à Paris 1 des étudiants, donc enfin des élèves qui venaient de passer, donc étaient étudiants qui venaient de passer le bac, et je peux vous dire qu'ils n'arrivaient pas à suivre, quand ils n'arrivaient pas à prendre des notes. Mmh. Et dans les copies, les corrections de copies, vous aviez à peu près 20% qui sont même pas au niveau quatrième. Je sais pas si vous vous rendez compte.
Alors que l'an dernier, il y a eu 93% de réussite au bac, je crois.
Il y a 93% parce qu'on a abaissé, si vous voulez. On cherche, si vous voulez, à faire réussir. J'entendais l'autre jour un parent d'élève qui disait « C'est scandaleux, mon fils a une mauvaise note, il faut que vous allez le faire rater sa vie, etc. » C'est-à-dire que moins ça représente quelque chose, le black, et plus on en parle dans les médias, je vous rappelle. On n'en parlait pas autant.
Et vous étiez plutôt un prof exigeant? Vous refusiez de baisser les notes ou pas?
Les historiens géographes, ils sont quand même exigeants parce qu'on ne peut pas bluffer. Il y a des connaissances. Ouais. On ne peut pas inventer le 13e siècle, Saint-Louis ou la Seconde Guerre mondiale. C'est tout. Et donc, les élèves sont un peu piégés parce qu'on leur demande de moins en moins d'efforts, mais ça commence depuis les classes au collège. Hein. C'est-à-dire qu'on baisse systématiquement le niveau. On demande surtout d'être très indulgents, c'est-à-dire quasiment on leur donne les réponses et s'ils ne l'ont pas, on essaye de leur trouver des points supplémentaires.
Ça dépend des endroits, mais bon...
Non, ça ne dépend pas des endroits. Ce sont des directives des rectorats dans toutes les régions. C'est malheureusement comme ça. Et vous parliez tout à l'heure des difficultés à recruter. Les difficultés à recruter
chez les enseignants,
ça vient là parce qu'on fait croire aux élèves et aux étudiants qu'ils ont un niveau alors qu'ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas de compétences en fait.
Bon, allez, si vous voulez.
Attendez, juste pour remercier Hervé parce que c'est un auditeur fidèle et qu'il intervient souvent. On a un petit cadeau pour vous, même trois beaux cadeaux. Des bijoux, des bracelets de la marque Les Interchangeables. C'est super beau, c'est du Made in France. Vous pourrez les offrir pour la fête des mères bientôt.
Merci
beaucoup.
Allez, dans un instant, on continuera. Alexis Poulain qui est toujours là, évidemment. Éric Revel qui va nous rejoindre aussi. Tout le monde cherche un petit peu, a perdu sa boussole. Le Parti Républicain, c'est exactement la même chose. On va voir ça avec Éric Revel. Est-ce que vous pensez que ce bac est dévalorisé? Je ne sais pas. Parce que là, c'est quand même assez mitigé. 0826-300-300.
On demandera à Alexis Poulain.
Alexis Poulain qui voit émerger une nouvelle force politique, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, avec NUPES. Quel drôle de nom quand même.
NUPES.
La nouvelle alliance populaire. Vous pouvez réagir là aussi. Et puis alors, je ne sais pas si vous avez été choqué ou pas par ce qui a été dit tout à l'heure avec Benjamin Glaize. C'est-à-dire cette femme entrepreneur qui dit « Moi, les stagiaires, quand on me dit dans une école, il ne faut surtout pas en fait, qu'ils fassent plus de 35 heures, sinon je les retire de chez vous », elle dit « Bah non, c'est pas ça,
le
monde du travail. »
Pour gagner moins, peut-être.
C'est pas forcément travailler plus, mais c'est travailler et en tout cas, ça va dans le sens de ce qu'on disait pour le bac, c'est-à-dire que finalement, plus d'efforts aujourd'hui. Tout doit être récompensé. Vous nous appelez 0826 300 300.
C'est Radio 8h58.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia.
Il est 9h05 sur Sud Radio, il est toujours en campagne, c'est Revel en campagne avec Eric Revel. Bonjour Eric.
Bonjour Patrick. Alors, je bats la campagne.
Oui. Je bats la campagne.
Je regarde tous les partis. Aujourd'hui, je vais vous parler des Républicains.
Bah oui, parce qu'il y a un problème quand même chez les Républicains, comme chez beaucoup. Ils ont perdu un petit peu leur boussole. Hein. Ouais. Ça, c'est très clair. Et on va quand même s'arrêter puisqu'ils n'ont pas d'alliance électorale, eux, ils semblent abandonnés à leur triste sort, hein, si je puis dire. Et pourtant, ils se cherchent un nouveau président, oui. Ou une nouvelle d'ailleurs.
Ou une nouvelle présidente.
Et la bataille a commencé en coulisses. Hein.
Oui, la bataille a commencé. Alors, dans les jeux d'alliance politique à quelques semaines des élections législatives, il y a une bataille, effectivement, Patrick, feutrée, qui intéresse finalement quand même pas mal de monde dans le petit milieu politique et électoral. C'est la bataille à bas bruit pour la présidence du bateau LR, qui prend l'eau, c'est vrai, de toutes parts, mais dont on aperçoit encore la ligne de flottaison. Hein. Il prend l'eau, mais il flotte encore, le bateau LR. Alors, les dernières projections, je regardais, créditent les LR de 50 à 70 sièges. Bon, ils en ont 101 actuellement, donc ce serait quand même une lourde défaite dans cette Assemblée nationale, mais ce qui en ferait quand même la troisième composante de la future Assemblée nationale, derrière le bloc LRM, l'RM Renaissance, qui est donné gagnant, et puis, deuxième, nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale de Jean-Luc Mélenchon. Donc un parti des Républicains qui flotte encore, qui va sauver des députés, mais qui évidemment pas en bon état et qui cherche quelqu'un pour diriger.
Et qui peut prétendre succéder à Christian Jacob, justement?
Alors, Christian Jacob, l'actuel président l'a dit, il passera la main après les élections législatives. Et sur la ligne de départ, alors on a différents castings possibles. On a Laurent Wauquiez, l'éternel retour, le président de la région Rhône-Alpes, qui a été à l'époque président des LR, mais viré notamment par les amis de Valérie Pécresse qui trouvaient qu'il est trop à droite. On a aussi, pourquoi pas, Éric Ciotti. On a, paraît-il, puisque vous parliez de femme, Rachida Dati, que ça intéresserait d'être présidente des LR. Alors, évidemment, Wauquiez et Ciotti, ils incarnent plutôt une droite chimiquement pure, si j'ose dire. Ou alors aussi, on a des jeunes qui tenteraient bien leur chance et qui disent attendez, c'est bon, il y a les éléphants au Parti Socialiste, il y en a aussi ailleurs, donc passez la main, les Julien Aubert, les Aurélien Pradier, plus ou moins soutenus par Xavier Bertrand, vous voyez. Il y a du monde sur la ligne de départ, mais on sent en réalité qu'il n'y aura pas de guerre des chefs. Ils vont se mettre d'accord avant, parce qu'évidemment, ce parti qui est déjà aspiré par la majorité présidentielle, mais dont l'échec de Sarkozy a joué les rabatteurs pour Macron, a redonné quand même du tonus aux Républicains. Ils vont s'entendre, dit-on, en interne. Il y a des belles signatures, il y a des gens qui sont visibles dans ce parti, les Wauquiez, les Bellamy, les Retailleau, les Valérie Boyer, ou même les Xavier Bertrand. Donc, ce parti, il est très en très piteux état, mais comme je le disais tout à l'heure, le bateau flotte encore un peu.
Bon, mais vous n'avez pas parlé et signalé Valérie Pécresse tout de même, quoi.
Non,
si les Républicains veulent survivre, ils doivent tout renverser la table.
Alors ils doivent renverser la table avec une ligne politique,
pour l'instant,
claire.
C'est chaloupe à la mer.
Pour l'instant, ils écopent. Ils écopent dans le bateau qui prend l'eau. Une ligne politique claire, et s'y tenir. Aller jusqu'à imaginer d'ailleurs un changement de nom. On dit d'ores et déjà chez les Républicains qu'on laisserait tomber le nom Les Républicains pour s'appeler par exemple Les Populaires. Voyez,
ça
donnerait une autre image. Les Populaires. Un changement de fonctionnement aussi. Un travail de terrain long pour éviter l'impréparation de la candidature programmatique de Valérie Pécresse qui a mené au fiasco électoral que l'on sait. Donc faut renverser la table. Mais la droite républicaine n'a plus évidemment le choix. C'est son dernier ultime sursaut avant la clé sous le paillasson. Mais les LR, en refusant toute alliance, et c'est un point important qu'on dit, qu'on analyse, en refusant toute alliance politique, paradoxalement, on peut être sauvé. Le parti, ils vont être réduits, mais ils vont être réduits ensemble, vous voyez. Donc, ils représentent encore une structure. Et puis, il y a des femmes et des hommes de bonne volonté à droite, qui ne manquent pas. Alors, il leur faut évidemment des idées pour les Français, des idées qui parlent aux Français. Il ne faut plus trahir les Français. Vaste programme, aurait dit Général de Gaulle.
Oh.
qu'est-ce que vous en pensez, vous, au 0826 300 302, de tous ces partis qui ont un petit peu perdu leur boussole et qui recherchent donc bah, soit des capitaines, ou alors...
Beaucoup comme, de femmes, hein, beaucoup, président Macron cherche sa femme alors, première ministre, alors, voilà, là on ça. Cherche vous... son président ou sa présidente, oui, chacun oui. cherche son char. Là,
oui, oui, oui. Que ce soit donc au Parti Socialiste, où on est un petit peu quand même perdu, là c'est la boussole idéologique, entre guillemets, qui est perdue, ou alors chez les Républicains, même chose, hein, il faut quand même avoir des éléments de programme, et puis du côté du gouvernement. Alexis Poulain, quand vous entendez Éric Revel, on a l'impression que, comme le PS tout à l'heure avec Stéphane Foll, c'est-à-dire qu'ils sont en train de patauger ces partis traditionnels, alors qu'il y en a un qui trace sa route pour l'instant, je ne sais pas où ça le mènera, mais c'est un certain Jean-Luc Mélenchon, quoi.
Oui, c'est clair. Je crois qu'il y a... Parce que le pari de Jean-Luc Mélenchon, c'était le pari du temps long. Quand il quitte le Parti Socialiste, il a en tête de refonder un pôle de gauche autour des idées socialistes, mais celles d'il y a quelques années. Et ça fonctionne. Alors, évidemment, c'est un changement de génération, mais qui est acté par des gens qui ont déjà prévu, en fait, cet après. Pour ce qu'on voit chez les Républicains, on voit, là encore, un changement de génération avec la question européenne qui est centrale dans cette redistribution des cartes, en disant, mais attention, qu'est-ce qu'on veut proposer aujourd'hui, sachant que Emmanuel Macron a de toute façon accéléré encore hein, cette recomposition politique. Donc l'idéologie, bien sûr, elle est centrale. On voit que sur les bases acquises, hein, Valérie Pécresse, par exemple, qui essayait de faire une campagne à l'ancienne, qui pensait que les Républicains pourraient la porter au-delà des 5%, ça a été un fiasco total, parce que les temps ont changé, parce que vous avez un Éric Zemmour aussi qui arrive dans le jeu politique, parce que vous avez un discours de la radicalité, alors qui n'amène rien en termes de programme et d'idées, mais qui amène en termes électoralistes, qui amène en termes de vues, qui amène... on est dans la société du spectacle, donc il y a ce besoin de radicalité qui fait exister. Et puis, l'autre chose, c'est ce que je disais, c'est cette lutte générationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une façon de faire différente, une façon de voir aussi différente, et des enjeux qui ne sont plus les mêmes non plus. Enfin, ça reste une base, hein, c'est l'économie. L'économie aujourd'hui, on voit bien que les politiques, quelles qu'ils soient, n'ont plus vraiment de prise sur l'inflation, sur la stagnation, sur la politique fiscale même. Emmanuel Macron a été le dernier à tenter de réformer avec la suppression de l'ISF. Mais derrière, la Banque de France vient de lancer une alerte hier. Tous les voyants sont rouges. Donc, on voit pas en réalité... On promet des choses, enfin, quand je dis on, les responsables politiques vont promettre beaucoup de choses, mais l'accompagnement finalement.
C'est désolant quand même, ce que vous dites est dramatique, quoi, en même temps, Alexis, parce que si.
C'est un constat dramatique.
Ah, bah non, mais bien sûr, Éric Revel, si les politiques n'ont plus aucune prise sur notre économie et sur notre avenir, alors c'est quand même extrêmement dangereux, quoi.
Oui, non, oui, enfin,
à quoi ça sert d'aller voter pour élire des gens si, du coup, ils ne peuvent pas.
Sur le constat, je vais vous en dire un mot, mais je rappellerai comme Alexis Poulain que celui qui en promet le plus, c'est comme Jean-Luc Mélenchon. Hein.
Lui,
il en promet.
Il a un catalogue. Ouais.
Alors, quand on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de voyants économiques qui sont au rouge écarlate, ça ne fait pas peur à Jean-Luc Mélenchon de remettre en place un programme type, d'ailleurs, Le Foll le disait tout à l'heure, le maire PS du Mans. C'est un programme type 1981, hein, dont on voit où il a conduit, c'est-à-dire 1981, François Mitterrand, ça a duré 2 ans, et en 83, il y a eu ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, parce que les fondamentaux macroéconomiques français, avec l'application du programme de la gauche, étaient tellement en mauvais état qu'il a fallu que Mitterrand change de Premier ministre, pour le coup, hein, exit Pierre Mauroy, vous en souvenez, pour mener une politique beaucoup plus rigoureuse. Donc, c'est bien de susciter des espoirs, c'est bien de dire qu'on a, évidemment, des problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays, et c'est une idée et une obligation. Mais attention au lendemain qui ne chante pas, parce qu'on ne peut pas dire à la fois, mon cher Alexis, que l'économie française est plombée, et c'est le cas, malheureusement. On est dans de grandes difficultés, et en même temps applaudir dès demain à ceux qui promettent tout et les lendemains qui chantent, vous voyez.
Ouais. Je crois que c'est là le changement de paradigme, c'est-à-dire que même vous avez Pierre Moscovici, tout le monde est en train de militer pour revoir les règles européennes hein, de de déficit parce que tous les États européens sont endettés et massivement. Donc, tout le monde veut changer les règles parce que ça ne peut pas fonctionner avec l'argent de la BCE, avec actuellement. Enfin, c'est un débat. Évidemment, la promesse électoraliste, elle peut être déçue et très rapidement compte tenu des réalités que sont celles des marchés et celles de l'économie mondiale. C'est en ça que c'est très limité finalement ce jeu politique. Et les marges de manœuvre des politiques sont extrêmement réduites. Donc voilà, c'est en ça, je pense qu'il y a une vraie recomposition, parce que derrière, la question qui se pose, et c'est la question centrale, c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat, c'est la qualité de vie aussi hein, des Français, services publics, éducation, on parle du bac aujourd'hui, et tout ça, bah, ça a un coût, et ça doit se financer avec une économie qui fonctionne.
Alexis Poulain, je vous laisse réagir justement au sondage qu'on a, on a posé à nos auditeurs sur Twitter. Voilà, qu'est-ce que vous attendez pour le pouvoir d'achat du nouveau gouvernement Macron. À 44%, nos auditeurs demandent des augmentations de salaire et à 40% des blocages des prix. Et puis d'autres proposent d'autres solutions. Certains disent, bah voilà, il faudrait aussi diminuer les charges. Diminuer les charges, c'est une vraie question. D'autres disent qu'il faut mettre en place une exception agricole. Et puis il y a Vincent qui dit qu'il faudrait diminuer les retraites des seniors bourgeois. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah oui, on peut diminuer certaines retraites, on peut
au-delà
de certains. Bah, non, mais évidemment, il y a aussi la question de ceux qui travaillent, de ceux qui doivent vivre de leur travail. La retraite est une rente, alors qui est gagnée hein, tout au long de la vie. Je crois que c'est le débat évidemment, c'est celui du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent aujourd'hui. C'est l'avenir des enfants. C'est comment faire pour dire mais attendez, moi je peux pas travailler et me rendre compte que je peux pas me loger, je peux pas me nourrir.
C'est vrai qu'il y a un truc complètement paradoxal, hein, il faut le dire, Alexis, Éric Revel, et puis vous, au 0826-300-300. On se bat là aujourd'hui autour de la retraite, et on ne se bat pas autour en fait de ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'emploi aujourd'hui, et peut-être des salaires qui soient plus décents, pour que les gens aient travaillé. Parce qu'en fait, il y a des milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Et les gens ne veulent pas y aller parce qu'ils sont payés 1 500 € par mois, et ça ne les intéresse pas, ils disent que finalement, ils sont aussi bien chez eux, plutôt que de dépenser en fait de l'argent en roulant en voiture avec tout
problème.
Ce que... mais c'est un véritable problème et on se bat sur
les
quoi
déserts médicaux,
et on
les
se bat sur quoi qui... sur les retraites on marche complètement sur la tête Éric Revel
je vais vous dire ce que je pense quand j'entends que on met sur la table une idée comme il faudrait tondre les retraités bourgeois mais attendez
ils ont pas dit tondre
mais il y en a qui gagnent bien leur vie
mais c'est pas le sujet. Oui, mais des gens qui ont une très bonne retraite. Enfin, Patrick, Roger, les gens qui ont une très bonne retraite, ça veut dire qu'ils ont eu des très bons salaires et qu'ils ont fait une carrière.
Ils doivent aider leurs enfants, faire l'effort.
Mais c'est du populisme absolu.
Mais non, mais c'est pas du populisme. Mais qu'est-ce que vous dites?
Vous basculez dans l'extrême gauche.
Mais non, mais Éric Revel.
Comme quand on dit qu'il faut augmenter les salaires.
Éric Revel.
Ça n'existe pas.
Non, mais Éric Revel, regardez les choses en face.
Ah bah j'y regarde.
Et qu'est-ce qui se passe? Dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, énormément de gens ne peuvent plus aller en fait travailler. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés. Alors que d'autres qui sont en retraite vont toucher 4, 5, 6 000 euros par mois. Mm-hmm. Et que des gens qui aujourd'hui doivent faire face à des loyers qui sont extrêmement conséquents. C'est-à-dire des loyers qui sont de l'ordre de 800 000 euros.
C'est du populisme.
Comment vous faites?
C'est pas du populisme. Calmez-vous, ne parlez pas en même temps.
Quelqu'un qui a 5 000 euros de retraite, il ne l'a pas volé, ça veut dire qu'il a eu un salaire. Mais de quel droit vous allez dire à ce type ou à cette femme, vous allez maintenant diviser votre retraite par deux?
Mais c'est pas possible.
Il faut arrêter de dire aux gens, c'est pas du populisme.
C'est d'essayer de trouver des solutions.
Parce que vos lendemains vont déchanter.
Parce que là, vous ne trouvez aucune solution.
Mais je vais vous dire.
Quelles sont les solutions, Éric Revel?
Je vais essayer de vous l'expliquer.
Après la pub, non?
La solution, c'est de dire il n'y a qu'à Faucon. En réalité,
non.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand vous laissez croire que si un parti politique ou un leader arrive au pouvoir, il aura la possibilité d'augmenter les salaires, vous mentez aux gens.
Bon, donc oui. Vous leur dites, là, vous n'avez aucune chance d'augmenter vos salaires.
Non, je dis,
la seule marge de manœuvre,
c'est d'augmenter ce qu'on appelle le salaire minimum. Ouais. Ça, c'est du domaine de l'administration et d'un gouvernement. Mais laissez croire aux gens qu'à partir du moment où Mélenchon va arriver,
ce sont ceux qui sont au-dessus qui n'arrivent pas à vivre.
Comment vous allez imposer aux chefs d'entreprise d'augmenter les salaires?
On poursuit les débats entre Patrick Roger et Éric Revel. Dans quelques instants, Sud Radio 9h20.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia.
Allez, avant de retrouver nos grands débats du matin avec les débatteurs, Patrick Roger, qui est devenu un débatteur d'ailleurs, Éric Revel
Parfois, ça m'arrive d'animer en fait un Alexis peu les débats.
Attends, un petit mot quand même dans la vérité en face, hein, dans une 5, 6, 7 minutes. On parlera écologie, comment allier l'écologie en ce moment avec la sécheresse, réchauffement climatique et surtout les conséquences de la guerre en Ukraine. On sera avec notamment Olivier Blond qui lui plaide pour une écologie de droite, intéressant. Et Maxence Cordier qui est ingénieur et qui vient de signer Énergie FEC hors note aux éditions Tana, et ça réagit pas mal au standard au 0826 300 300, suite à vos débats, messieurs. Et c'est Pierre qui nous appelle de Montèche dans le Tarn. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Alors.
Écoutez, on parlait des salaires, mais 1 500 euros, c'est pas suffisant comme salaire. Quand vous pensez qu'à Montèche, à 50 km de Toulouse, un T3 est à 800 euros, il reste quoi? 300 euros d'essence, 300 euros ensuite de gasoil pour faire le trajet Toulouse-Montèche. Et il reste quoi?
Il reste juste de quoi aller acheter le pain et quelques courses.
Voilà. Et quand on pense que Macron veut mettre la retraite à 65 ans, c'est de la folie. Vous avez des seniors, ceux qui ont de 50 à 60 ans, ils ne trouvent même pas de boulot. Mais c'est aberrant.
Alors qu'il y a beaucoup de boulot par ailleurs, c'est ça qui ne va pas, en fait.
Il ne va. D'abord, ils n'ont qu'à faire marcher la planche à billets et augmenter le SMIC. Parce que ça, ils peuvent le faire pour autre chose, ils peuvent le faire pour les salaires.
Ouais.
Ensuite, je voulais faire une petite remarque au sujet de l'investiture de Emmanuel Macron.
Ouais.
Quand il a été réinvesti président de la République, quand je l'ai vu avancer, faire un clin d'œil à Brigitte Macron, on aurait dit l'adolescent qui faisait un clin d'œil à sa maman pour aller chercher son diplôme. C'est affligeant ce que l'on voit, c'est affligeant.
Alors, en même temps, si vous étiez avec votre épouse et que vous accédiez, vous ayez un diplôme, etc., vous pourriez faire un clin d'œil à votre famille. Bon, voilà, on peut pas lui en vouloir.
Il est président de la République, il passe pas le bac.
Pour remercier Pierre de sa fidélité et de son intervention, hein, parce que c'est un fidèle auditeur de Sud Radio, écoutez, on vous offre des bijoux pour votre femme, comme ça vous pourrez lui faire des clins d'œil.
Votre femme ou votre maman, c'est aussi bien.
Voilà, c'est des bijoux, des beaux bracelets, les interchangeables, c'est pour vous Pierre. Voilà, pour vous remercier pour votre fidélité. Voilà.
Avec plaisir.
Faites ce que vous voulez.
C'est très gentil.
Voilà, c'est avec plaisir.
Chacun vit sa vie, évidemment. Accusé, Alexis Poulain. Répondez à ce que disait tout à l'heure Éric Revel, Mélenchon promet la lune.
Il promet la lune, il promet une revalorisation du SMIC, mais le vrai, et d'ailleurs Pierre a commencé son interpellation sur le sujet, l'absent en fait de tous ces débats, de tous ces programmes, le coût du logement. C'est-à-dire, si vous regardez le coût du logement ces 20, ces 30 dernières années, c'est devenu quelque chose d'inabordable.
250% d'augmentation dans certaines villes en l'espace de 20 ans, alors que les salaires ont augmenté entre 10 et 20%.
Et donc, s'il n'y a pas de plan logement au niveau du pays, et là, c'est vraiment au-delà de la rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'on doit trouver une solution. Et ça passe par donner de l'air à la jeunesse, justement, en disant, parce qu'on ne pourra pas, comme le dit Eric, augmenter les salaires d'un claquement de doigts. En revanche, on peut peut-être avoir des plans de construction de logements neufs, faire en sorte que les prix baissent, ou avoir des façons de loger les jeunes qui commencent dans l'emploi ou les gens qui vont avoir... Enfin, c'est impossible. Cette équation, elle devient impossible. Et si vous ajoutez à ça l'inflation et le coût de la vie, alors là, vous avez une cocotte minute sociale et je ne vois pas de solution à l'horizon. C'est là où je suis assez pessimiste. Parce que jusqu'à présent, on s'agite, on a fait beaucoup de dettes et là, on commence à se rendre compte qu'il va falloir rembourser pour continuer à pouvoir s'endetter sur les marchés financiers. Je parle de l'État. Mais pour ce qui est des vrais problèmes, logement et pouvoir d'achat, je ne vois pas l'once d'une solution qui pointe le bout de son nez.
Eric ?
Voilà. Sur le constat, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que les pouvoirs d'achat, les questions de pouvoir d'achat s'accumulent. L'inflation est énorme. Les questions de logement grèvent les budgets. Les questions de plein d'essence grèvent les budgets. L'envolée du prix de la viande, etc., grèvent les budgets. Tout ça est juste, le constat, je le partage à 100%. Je mettais juste en garde contre ceux qui laissent croire qu'à partir de demain, d'après-demain, dans un mois ou dans six mois, tout à coup, parce que un parti politique arriverait au pouvoir, il n'y aurait plus de problème de salaire, il n'y aurait plus de problème de pouvoir d'achat. C'est impossible. Le laisser croire, c'est du populisme, je le dis. La seule marge de manœuvre, c'est l'augmentation du SMIC, du salaire minimum. Avec l'implication que ça a quand même, il faut le dire, il faut que les gens le sachent, c'est que si vous augmentez le SMIC, vous êtes obligé de revoir ce qu'on appelle l'échelle des salaires dans votre entreprise, parce qu'il y a des effets cliquets, il y a des gens qui étaient au SMIC qui vont vouloir aussi être augmentés. Et ce qu'il faut aussi que les gens sachent, c'est que quand vous augmentez les salaires, ce qui est normal, ce qui serait légitime dans un pays comme le nôtre, vous augmentez les coûts de production, donc le prix de vente des produits, et donc vous redonnez un petit coup de pouce à l'inflation, en réalité.
C'est la spirale
prix-salaire. C'est ça aussi qu'on va en tête. Alors, je veux bien qu'on nous dise « bloquons le prix de certains produits
».
Très bien. Mais ça, ça n'a qu'un temps sur quelques mois, sur quelques années. Parce qu'après, qui paye la différence entre le coût de revient d'un produit c'est l'État dans un premier temps, mais ça ne peut pas durer. Il faut quand même que les gens le sachent. Mais bloquons les prix des produits de première nécessité. D'accord, pourquoi pas. Ça, c'est une façon de redonner du pouvoir d'achat. Mais ne laissons pas croire, parce que c'est terrible, qu'un coup de baguette magique ferait que du jour au lendemain...
En attendant, évidemment... suffisamment payés, par exemple, l'aide à domicile, vous n'avez plus personne, en fait, aujourd'hui. Et c'est un énorme problème. Vous avez entendu le populaire du centre tout à l'heure. Des infirmières, vous n'avez plus d'enseignants, parce que là, c'est pas une question de SMIC, mais c'est 1800 à 2000 euros, et qu'ils sont dans des grandes villes où les logements sont à 800 à 1000 euros. C'est le même problème. Et évidemment, avec... la hausse et la flambée de l'ensemble des coûts qui intervient pour un ménage, c'est-à-dire sa facture d'eau, sa facture d'électricité, sa facture de chauffage, ses impôts locaux, etc. La bonne idée de supprimer la taxe d'habitation, tu parles, Charles, oui, évidemment, ça c'était du pipeau total. Bon, allez, merci, on aurait pu disserter, et oui, on le fera demain aussi autour de qui comme Premier ministre. Quelqu'un qui n'a pas fait vraiment de politique.
Une femme, dit Alexis.
Vous avez entendu les deux noms qui reviennent tout le temps. C'est Audrey Azoulay, ancienne ministre de la Culture de Hollande, et Marisol Touraine. Voilà les deux noms qui tournent.
Et Anne de Bézère également. Qui était secrétaire général. Mais c'est un bon poste, secrétaire général de l'Élysée, parce que derrière, vous avez vu, vous pouvez devenir Premier ministre, vous pouvez devenir même président de la République. Allez, dans un instant, chaleur, sécheresse, y a-t-il des effets est-ce que ce sont les effets du réchauffement climatique aussi? Quelle écologie est possible? On va voir ça. Et puis d'ailleurs, est-ce que l'écologie, c'est uniquement de gauche? Bien souvent, on l'a entendu dans la campagne électorale.
De droite,
C'est aussi de droite, Olivier avec Blond. Nos deux invités dans un instant, Olivier Blond et
l'ingénieur Maxence Cordier. Et puis vos appels, bien sûr, au 0 826 300 300. À tout de suite, il est 9h31.